France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30.
La nuit rêvée d'Olivier Rollin, écrivain. Le savoir que nous transmet le roman, précisément, et qu'il est seul à pouvoir nous transmettre, ni l'histoire ni aucune science humaine ne le pourra, c'est celui-ci. Nos destinées sont toutes tramées d'équivoques, même les plus apparemment droites. Il est rare qu'elles ne se laissent pas envisager de plusieurs façons, qu'elles ne soient pas susceptibles de plusieurs vérités. Olivier Rollin, 2007. Bonsoir, je rappelle que vous avez passé votre enfance au Sénégal, que quand vous rentrez en France, vous fréquentez le lycée Louis-le-Grand et qu'en 1967, vous entrez à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Que votre œuvre est marquée par les années où l'histoire a rencontré et bouleversé votre vie, mai 68 et l'aventure de la gauche prolétarienne, mais elle était également déterminée par vos lectures et par vos voyages qui permettent à vos lecteurs de vous accompagner dans les lieux les plus insolites. J'ajoute que vous avez publié une quinzaine de romans, des récits dits géographiques et des articles de journaux. Merci de passer cette nuit avec nous. Alors comment pourriez-vous compléter ce CV tracé à gros traits, Olivier Rollin?
Non, en tout cas, il m'a semblé extrêmement exact. Je pourrais le préciser, en tout cas, en disant que je suis, oui, je suis assez voyageur. Non pas que je ne pense pas que ce soit indispensable à un écrivain de parcourir le monde, mais enfin, il se trouve que moi, ma curiosité m'amène beaucoup à cela. Voilà, donc je passe plusieurs mois par an sur les grandes routes du monde. Et c'est souvent à partir de là, de choses rencontrées, de problèmes rencontrés, de lieux traversés, etc., que se forme l'idée d'un livre à venir. Je suis venu de la politique extrême, vous y avez fait allusion, la gauche prolétarienne, le post-mai 68, etc. Ça a joué un très grand rôle dans ma vie, bien sûr, et en particulier dans ma vie d'écrivain, puisqu'en fait c'est pour réfléchir sur cette expérience là que j'ai commencé à écrire, et en même temps je n'ai cessé de m'éloigner depuis de la pensée politique, de la vision politique du monde, et je pense que précisément c'est la littérature et plus précisément le roman qui m'a aidé à m'éloigner de cela et qui m'a aidé à trouver une autre façon d'envisager la vie des hommes et des femmes.
Alors le mieux serait peut-être de prendre quelques-uns de vos romans et de voir comment ça fonctionne. En 1993, vous publiez aux éditions du Seuil un roman très ambitieux, L'invention du monde. Vous vouliez raconter ce qui s'est passé dans le monde à une date précise, en l'occurrence le 21 mars 1989, et vous expliquer: j'ai formé le dessein de conter en un récit continu les métamorphoses qui composent la figure innombrable de ce jour.
Oui, ce qui est assez curieux, c'est que c'est un projet qui aurait été sans doute beaucoup plus facile mais de mener à bien si à l'époque l'internet avait existé.
Ah oui, c'est vrai, voilà.
Bon, mais ça, comme ça aurait été beaucoup plus facile, ça n'aurait pas non plus tellement valu la peine d'avoir ce projet. Mais en tout cas, voilà, c'est une vision. Oui, j'ai eu envie de donner une vision globale de tout ce qui se passe, du grouillement des destins, des destinées individuel dans une journée du monde.
Une journée qui dure 48 heures.
Qui dure 48 heures, puisque ça c'est une chose que jamais les gens ne comprennent, et comme je crois que vous-même n'êtes pas très, si vous me permettez, très porté sur la géographie, mais enfin entre le moment où la date naît quelque part dans le Pacifique et le moment où elle disparaît de l'autre côté de la ligne de changement de date, eh bien, 48 heures se sont écoulées. Bref, en tout cas, donc c'est une espèce d'épopée triviale de ces 48 heures de la vie du monde.
Alors, en tout cas, Bernard Comment, qui est écrivain lui-même et qui n'a pas l'admiration facile, écrivait dans Harper's en septembre 1993 « L'invention du monde est un éblouissement, une œuvre majeure qui déborde largement l'actualité de la rentrée et s'inscrit dans la constellation de la grande littérature.
Mmh. » Voilà. Oui, c'était aimable, oui. Je me souviens de cet article.
Oui. Il dit que vous essayez d'opérer la synthèse globalisante sur le mode d'une fiction planétaire, ce qui...
Oui, j'étais...
Comment est-ce que vous avez travaillé, par exemple, pour arriver à faire ce roman, puisqu'il n'y avait pas Internet, justement?
Oui. Les attachés culturels français dans le monde entier m'ont envoyé les journaux des pays où ils étaient en poste, du même jour. En l'occurrence, ils m'ont envoyé les journaux du lendemain, puisqu'il fallait que, pour savoir ce qui se passait le 21, il fallait avoir la presse du lendemain. Bon, mais alors rien que ça a pris un temps infini, évidemment, parce que j'ai reçu des centaines de lettres avec des timbres magnifiques, mais certains, quand ça venait de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça mettait un certain temps à venir. Et puis ensuite, il a fallu que je traduise tout ça, que je fasse traduire tout cela. Donc il y a eu, en fait, plus de deux ans et demi de qui ont été occupés uniquement par tout ce travail d'amasser, de collecter de traduire, de me trouver face à une espèce de montagne de d'histoires, de faits, de portraits, etc., mais de choses complètement amorphes, et ce qui a été justement très long et compliqué et qui a été une révélation, c'est trouver une forme pour me justement faire un récit continu,
donner de la vie à tout ça.
Voilà, j'avais quand je dirais un chant continu, un récit continu, je pensais à Ovide, je pensais à Lucrèce, je pensais au grand poème Thalysan de l'Antiquité, et notamment de l'Antiquité latine.
Vous écrivez depuis toujours, Olivier Rollin ?
Non, pas du tout, non, quand j'étais jeune, très jeune, contrairement à beaucoup qui sont d'écrivains que je connais, je n'avais pas du tout le projet de devenir écrivain. J'avais des projets plus ou moins. J'avais le projet de devenir marin, des choses comme ça. Ensuite, j'ai eu le projet de faire la Révolution, et ça me paraissait
finalement, vous avez réussi à être marin, à faire la Révolution,
oui,
à être écrivain.
J'ai fait un peu de tout cela, mais voilà. Donc non, c'est vraiment le désir d'écrire. D'ailleurs, au départ, c'est même pas un désir, c'est une espèce de nécessité où je voulais réfléchir donc à tout ce qui nous était arrivé pendant ces années où nous avions été donc de jeunes révolutionnaires, de jeunes extrémistes, très radicaux, je voulais réfléchir à cela, et ma manière d'y réfléchir, ça a été d'écrire mon premier livre. Voilà. Mais je me suis pas dit un jour, tiens, je vais être écrivain parce que j'admire Flaubert. Non, pas du tout.
Alors, comme nos auditeurs le savent, la nuit rêvée est une nuit dans laquelle on écoute des archives choisies par l'invité, c'est-à-dire vous. Et vous essayez justement de nous faire réfléchir et rêver avec quelques-unes de ces archives. La première que vous avez souhaité nous faire entendre, c'est une archive de Claude Simon. Claude Simon, quelques années après son prix Nobel, et vous avez écrit sur Claude Simon. Vous avez écrit en 2005 un article dithyrambique.
Oh, dithyrambique.
Ah oui, écoutez.
Un article admiratif.
Non, dithyrambique. Mmh. Il y a des mots qui viennent à l'esprit quand on pense à Claude Simon, à la langue de Claude Simon. Ce sont des mots plus très utilisés. On ne voit pas qui pourrait les revendiquer, à qui ils pourraient encore s'appliquer. Roide, âpre, des mots tels qui suggèrent de la hauteur, de la rudesse, du retrait, quelque chose de pas domestiqué, une raide vertu, une virtus latine virile. Il y a du romain chez lui, évidemment, du paysan et du soldat, il y a l'ampleur démiurgique des grands poèmes antiques, il y a le trait noir d'un Tacite, Avec lui, on sent que la langue, celle de la littérature, n'est pas née d'hier, de la dernière pluie, qu'elle vient de loin. C'est quand même très dithyrambique.
Oui, 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 oui. Mais c'est, pardonnez-moi, ma mémoire est un peu défaillante, là, mais c'est au moment de sa mort, je suppose, non, que j'ai écrit cela.
Oui, oui, absolument. C'est ça, oui. Mais oui. En 2005, en effet.
Et, oui,
mais bon, ça dit.
Oui, enfin, de toute façon, je pense tout cela. Je ne l'aurais peut-être pas écrit de cette façon-là, de son vivant. Enfin, j'aurais craint peut-être de sembler courtisan si je m'étais exprimé comme ça de son vivant, mais oui, j'ai une grande admiration. Enfin, c'est un des écrivains, j'allais dire contemporains, enfin, oui, en tout cas du XXe siècle, qui de langue française, qui compte de façon capitale pour moi, et je trouve en effet qu'il y a quelque chose de romain. D'abord, il avait une tête de romain.
Ça, c'est vrai.
Et puis, en effet, ce côté paysan et militaire, enfin, paysan et soldat, en tout cas. Cette réserve aussi, ce côté un peu secret. Enfin, là, je parle du personnage, je parle pas des livres. Et quant aux livres, eh bien, ce sont vraiment des livres où on voit que la littérature est une grande chose, qui vient de loin. C'est pas un petit divertissement, que c'est pas une chose comme la télévision, par exemple.
Eh bien, c'est une question presque de vie ou de mort. Vous citez cette phrase de Valérie, vous dites « Si chaque homme ne pouvait pas vivre une quantité d'autres vies que la sienne, il ne pourrait pas vivre la sienne. »
Oui.
Donc, sans la littérature, on meurt. C'est ça que ça veut dire.
Ou en tout cas, on vit. Oui, c'est ça que ça veut dire. Enfin, ce que ça veut dire, c'est que on vit de façon plus médiocre, moins libre, moins inventive sa vie. On ne meurt pas forcément, mais en tout cas, on ne maîtrise pas sa vie. Pour être ce à quoi sert la littérature, enfin, entre autres choses, en effet, c'est à faire que nous puissions mener aussi librement aussi que possible nos vies, parce que nous sommes aussi Madame Bovary, parce que nous sommes aussi Anna Karénine, parce que nous sommes aussi l'idiot, parce que nous sommes aussi le consul du volcan, etc. Enfin, voilà. Parce que nous sommes aussi des personnages de Claude Simon. Voilà. Parce que nous sommes tout ça, eh bien, grâce à la littérature, nous pouvons essayer de nous débrouiller avec nos vies.
Faire autre chose que vivre ensemble, quoi.
C'est-à-dire faire autre chose que vivre ensemble, que manger, que penser à sa carrière, enfin, voilà, oui, faire autre chose que tout ça.
Deuxième archive, Olivier Rolin, Tchekhov, sur la Grand Route, mise en onde en 1958. Alors, c'est une pièce interdite en son temps, car elle donnait aux yeux des autorités de l'époque une idée trop glauquissime, disons, de la campagne russe. Alors, est-ce qu'elle serait interdite aujourd'hui pour les mêmes raisons? C'est une question que je peux vous poser, puisque vous arrivez de Russie, vous étiez déjà allé en Russie il y a quelques années, vous avez pris le Transsibérien d'abord en 1986, puis en 2010, vous en aviez rapporté des textes pour France Culture d'ailleurs, que vous avez lus à l'antenne, et puis cette année, donc 2016, vous retrouvez une certaine Russie et Vladivostok. Alors, est-ce que la campagne russe est glauque, comme la décrivait Tchekhov?
Oui, à vrai dire, oui. Je ne sais pas si... Je pense que des écrits contemporains sur ce thème ne seraient sans doute pas interdits, ils ne seraient pas interdits de la même façon. Enfin, voilà. Ils ne seraient certainement pas encouragés non plus. Mais en tout cas, oui. Enfin, la campagne, je n'ai pas vu la campagne à proprement parler, mais les petites villes, voilà, c'est extrêmement... Enfin, j'ai été frappé là au cours de... J'ai beaucoup voyagé en Russie, puisque ça doit être quelque chose comme mon 30e voyage, celui que j'ai dont je reviens là. Et j'ai été plus frappé peut-être que d'habitude par l'état de décrépitude, de délabrement, de ruine, de pauvreté extrême, de désespérance, enfin voilà, des petites villes. Vous avez dit que je revenais de Vladivostok, mais je reviens surtout d'un endroit que Tchekhov a connu, sur lequel il a enquêté, qui est Sakhaline, qui est l'île qui était le grand lieu du bagne, de la déportation sous le régime tsariste. Et donc je suis allé, entre autres, à Sakhaline, sur les traces de Tchekhov, parce que j'ai une grande admiration. Tchekhov, c'est aussi un écrivain que j'admire comme écrivain, à cause de l'extraordinaire précision et modestie du trait, quoi. C'est-à-dire que ça n'est jamais emphatique, il n'y a jamais la moindre pompe, le moindre effet de cymbale. Tout est, oui, dans une discrétion absolument toujours complètement significative, complètement pertinente, qui fait voir les grandes choses, les drames à partir d'un petit point de lumière.
Mais il était médecin, donc
oui.
Il décrivait des symptômes.
Oui, bien sûr, oui, il était en effet habitué à la recherche des symptômes. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà de son génie d'écrivain, je trouve magnifique sa position politique, si je puis dire, c'est-à-dire justement non politique. Enfin, je veux dire, il se méfiait beaucoup de la politique. À la différence de quelques autres grands Russes du XIXe siècle, on ne trouve pas dans son œuvre des proclamations sur le peuple, sur la bonté du peuple, sur l'excellence des Mougis, des paysans.
Cette archive qu'on entendra tout à l'heure, et que vous avez quand même choisi, en effet, on n'entend rien de cette sorte-là.
Voilà.
C'est d'ailleurs pourquoi la pièce a été interdite à l'époque.
Exactement. Mais donc, il ne se berce pas de grandes phrases, de grandes illusions sur la vertu du peuple, sur le côté salvateur du peuple. Mais en même temps, c'est le seul qui le sert vraiment. C'est-à-dire que d'une part, il soigne les gens gratuitement quand cela est nécessaire, et il va donc il traverse toute la Sibérie alors qu'il est phtisique, qu'il est un homme plutôt faible physiquement. Il traverse toute la Sibérie dans des conditions extraordinairement difficiles pour aller enquêter sur le bagne, c'est-à-dire quand même protester contre les traitements inhumains qui sont réservés aux bagnards dans l'île de Sakhaline. Donc voilà, je trouve cette attitude magnifique, quoi.
Mais comment faites-vous jouer ce rapport entre le moment du voyage, la prise des notes, etc., et puis le moment de l'écriture, c'est-à-dire ce qu'on appelle, enfin, le moment en chambre, en quelque sorte, devant le bureau?
C'est toujours un peu une anxiété que j'ai en ce moment, par exemple, puisque je reviens en effet d'un voyage assez long. J'ai donc mes quatre carnets de notes copieusement.
Ils sont comment, vos carnets? Vous pouvez nous les décrire?
Oui, enfin, les modèles varient. J'ai eu longtemps des petits carnets qui venaient d'Actes Sud, là, avec un format un peu long.
Ça, oui.
Enfin, de toute façon, il faut toujours que ça tienne en poche, voilà. Bon. Il faut que le carnet s'adapte à la poche et pas l'inverse. Bon. Et donc, alors voilà, j'ai eu ça. J'ai eu longtemps des carnets de la Bibliothèque Nationale, qui sont très élégants et très agréables. Enfin, voilà, j'ai eu des carnets Mougis. Je ne sais pas si on a le droit de citer la marque, mais. Et là, à vrai dire, je sais pas d'où ils viennent, mais ils sont très bien, ils sont noirs, assez épais. Il y a beaucoup de qualités techniques que doit avoir un carnet. Il faut qu'il soit suffisamment rigide pour qu'on puisse écrire dessus.
Dans le train, par exemple.
Voilà. Et puis debout, surtout dans la rue. Enfin, bon. Oui. Alors, je prends des notes tout le temps, de peur d'oublier un détail. Il faut trouver les mots. Enfin, il ne faut pas trouver la phrase, bien sûr, etc. Mais il faut trouver un mot qui va s'inscrire là comme une petite flèche
dans la mémoire,
voilà.
Au fond.
Si on ne le trouve pas sur le motif, si j'ose dire, on ne le trouvera pas 15 jours après. Bon. Alors donc, prendre des notes, c'est ça. Et puis après, je laisse tomber cette chose-là pendant un mois, un mois, deux mois. Et ensuite, je rouvre et je m'y mets à transformer ça en un livre, quoi. Bon. Mais alors là, il y a toujours une grande anxiété, parce que finalement, quand on rouvre les carnets, peut-être finalement il n'y a pas grand-chose là-dedans de bien. Enfin, on n'en sait rien jusqu'au moment où on se met au travail, on n'en sait rien.
Il y a un roman de vous que j'aime beaucoup, qui est paru en 2004, qui s'appelle « Suite à l'hôtel Cristal ». C'est édité au Seuil. Vous êtes parti d'une citation de Perec. « Je garde une mémoire exceptionnelle, je la crois même assez prodigieuse, de tous les lieux où j'ai dormi ». Et en fait, vous décrivez très minutieusement des chambres d'hôtel dans tous les pays que vous avez traversés. J'ai trouvé ça formidable. Ça permet vraiment de voir le pays presque plus que tous les récits de voyage. C'est fabuleux.
C'était au début un exercice pérequien un peu, vous savez, parce que Pérec dit, non seulement il se souvenait de toutes les chambres où il avait dormi, mais Pérec dit il faut s'efforcer de décrire ce qu'il y a de plus simple, de plus banal, on ne fait pas assez attention. Et donc je me suis dit, je me pliais à cet exercice qui consistait à décrire chacune des chambres, en effet.
On a le droit à celles qui ont de la climate, celles qui n'en ont pas,
voilà,
celles qui sont grandes,
lui,
petites,
la couleur
moyennes.
Du couvre-lit, etc. Enfin, toutes ces choses qui sont assez ennuyeuses à décrire et qui sont, je crois, assez, pas forcément très amusantes à lire non plus.
Ah, si, c'est très révélateur, justement.
Oui, mais enfin, de toute façon...
Vous en avez fait quelque chose.
De toute façon, voilà, à l'intérieur de chacune de ces descriptions, après, j'insère une histoire, au contraire, elle, complètement loufoque, complètement rocambolesque. Enfin, voilà, donc chaque récit est un mélange d'une précision d'huissier et puis, d'une aventure un peu délirante. Mais quoi qu'il en soit, c'est donc après que j'ai publié ce livre, je me suis senti débarrassé de la du devoir donc de décrire chacune de mes chambres. Encore une fois, ça prenait du temps, ça me prenait une bonne demi-heure. On arrive dans une chambre d'hôtel, on est fatigué, hop, il faut aussitôt ouvrir son carnet et commencer à prendre les mesures, etc. Donc maintenant, je ne fais plus ça, mais en revanche, je prends des photos de la chambre, de ce qu'on voit par la fenêtre de la chambre, et de moi dans la chambre. Voilà. Et donc, je continue à avoir des archives qui commencent à être considérables et qui vont de Vesoul à Vladivostok, si je puis dire. Enfin, voilà, de petites villes de la province française jusqu'à des villes extrêmement éloignées dans le monde.
Mais c'est un des grands plaisirs qu'on a à vous lire, Olivier Rollin. C'est parce que on sent que vous aimez transporter, au fond, déplacer et embarquer avec vous le corps du lecteur, ou dans l'espace, ou dans les subjectivités. Et mieux encore, je trouve, par exemple, dans les deux à la fois, comme dans Vera Cruz, votre dernier roman paru chez Verdier, où on se déplace à la fois dans le temps et en même temps dans la position subjective.
Oui, Vera Cruz, c'est un livre dont l'histoire est assez curieuse, que c'est mon dernier livre. C'est un de mes livres les plus brefs. Il fait, je sais plus combien, il doit faire 130 pages, quelque chose comme ça. Je crois que c'est un des livres que j'ai le mieux écrit. Je veux dire, il n'y a pas une phrase sur laquelle j'ai envie de revenir. Et pas seulement parce que je viens de l'écrire, mais il correspond vraiment à ce que je voulais. Et étrangement, c'est un livre donc très court et que j'ai mis 25 ans à peu près à écrire, puisque le départ en est un court récit que j'ai fait il y a presque une trentaine d'années, enfin, et qui n'était pas du tout destiné à se développer ensuite en un livre. Mais
vous pouvez en raconter le principe aux auditeurs.
Oui, il y a une histoire d'amour, de rencontre et de disparition qui se passe donc à Veracruz, dans un Veracruz totalement imaginaire, parce que je vais dans beaucoup d'endroits, mais je ne suis jamais allé à Veracruz et je n'ai même pas voulu me renseigner. J'aurais pu regarder sur Google à quoi ça ressemblait, etc., mais je ne l'ai pas fait. Donc c'est un Veracruz totalement imaginaire. Donc il y a une rencontre entre un narrateur et une jeune femme, et puis elle disparaît. Et puis au milieu de tout cela arrive, comme peut-être clé de l'énigme, mais quelle clé, on ne sait pas, quatre récits qui racontent une espèce de huis clos entre trois hommes atroces et une jeune femme. Et voilà, et ces récits sont enchâssés dans le récit de la rencontre et de la séparation, et on ne sait pas très bien quelle fonction ils y tiennent, quoi. J'ai voulu faire un livre qui n'est pas de dénouement. Je trouve que c'est un peu puéril, les livres où tout s'explique, où on arrive à un point où tout, voilà, se dénoue. Eh bien, je crois qu'au contraire, il est bon que les choses se nouent plus qu'elles ne se dénouent. Dans nos vies, dans la vie, c'est ainsi que ça se passe.
Troisième archive pour cette première partie de votre Nuit rêvée, Olivier Rollin, une émission sur Homère, ou plutôt sur l'Iliade d'Homère, dans une traduction de Philippe Brunet, qui d'ailleurs participe à l'émission. Vous écrivez dans Bric et Broc: à présent tout est dit et l'Iliade s'achève. Au début, la jolie Briseis s'est arrachée à Achille. À la fin, elle va s'étendre à ses côtés dans sa baraque. Au début, un vieillard venu en suppliant est chassé avec des mots de menace, une rançon est refusée. À la fin, la supplique du vieux Priam est écoutée. La rançon du cadavre d'Hector est acceptée. Au début, la peste arrête pendant 10 jours les travaux de la guerre. À la fin, c'est la trêve consentie pour les funérailles d'Hector. Au début, les chefs se querellent et s'insultent. À la fin, les femmes pleurent. Andromaque, Hécube, Hélène, par qui tout a commencé. Au début, les bûchers funèbres sans relâche brûlent par centaines. À la fin, s'allume le bûcher d'Hector, dompteur de cavale. Le tour de l'immense bouclier de mots est refermé. Un dieu aveugle l'a ouvré, fruit de ses savants pensées. Pourquoi est-ce que vous nous proposez d'écouter l'Iliade dans cette traduction avec précisément la participation de Philippe Brunet? Je crois que vous connaissez très bien ce texte. Et aussi Philippe Brunet, d'ailleurs.
Je connais bien le texte, enfin la traduction de Philippe Brunet, puisque comme j'ai été un peu éditeur aussi dans ma vie, j'ai été notamment l'éditeur de cette nouvelle traduction de l'Iliade faite par Philippe Brunet, ce qui m'a permis de me reconfronter à ce texte que j'avais beaucoup lu, beaucoup travaillé, etc. quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, quand j'étais cagneux. Enfin, la journée commençait par une lecture et une traduction à livre ouvert, comme ça, de l'Iliade ou de l'Odyssée. Alors maintenant, je n'ai plus l'aisance linguistique que j'avais autrefois. Je ne suis plus du tout capable de lire comme ça Homère à livre ouvert. Mais enfin, j'ai pu me replonger un peu dans le texte grec et réviser la traduction de Brunet. Il y avait absolument rien à redire, mais enfin j'ai pu vérifier quoi à quel point elle était juste, exacte. Donc j'ai pu surtout retrouver cet enthousiasme que j'avais jeune à lire l'Iliade, parce qu'en général des deux grands poèmes d'Homère, c'est toujours l'Iliade qui est le mal considéré.
Tout le monde préfère l'Odyssée, naturellement.
Tout le monde préfère l'Odyssée parce que c'est beaucoup plus romanesque, parce qu'il y a des rencontres fabuleuses, il y a Circé, il y a tout ça. Une espèce de roman d'aventure maritime. Bon, il y a des monstres, enfin bon. Mais l'Iliade, c'est beaucoup plus âpre, évidemment. Il n'y a que la guerre, enfin. Mais c'est un texte extraordinaire. En fait, c'est une langue d'une force, d'une trivialité, d'une crudité, d'une inventivité extraordinaire. Je ne vois guère que Shakespeare, quoi, qui soit à cette hauteur-là de richesse verbale. Bon. La guerre elle-même est décrite de façon extraordinaire, c'est-à-dire avec une cruauté terrible. Les blessures sont détaillées, la lance qui passe dans la mâchoire, qui fait éclater les dents, qui coupe la langue, etc. Enfin, c'est bon. Il y a une sauvagerie, voilà, du texte qui est très 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 bouleversante. Et puis il y a aussi des moments de pure émotion. La mort de Patrocle, les pleurs d'Achille, les hésitations, les doutes d'Hector, qui est un personnage pré-romanesque. Il n'est pas simplement un personnage épique. Les personnages épiques sont un peu faits tout d'une pièce, comme ça. Mais il est un homme qui doute, il est un homme qui a peur, il est un héros, mais qui a peur. Enfin, bref, il y a des choses vraiment absolument admirable dans l'Iliade, et ça a été un des épisodes heureux de ma vie d'éditeur d'avoir à retravailler sur ce texte qui est pour nous écrivains du monde occidental et de toute façon un des textes fondateurs.
Donc vous allez nous proposer d'écouter Claude Simon dans une émission de 1985. Une pièce de Tchekhov sur la Grand Route, qui a été mise en onde en 1958. Et puis une émission sur Homère, qui date de 2010, et dans laquelle intervient Philippe Brunet. Et puis on se retrouve après. Mm-hmm. Olivier Roulin, vous restez avec nous?
Mais volontiers.